J'en étais à bonjour. Est-ce que vous avez bien déjeuné ce matin? C'est marrant, hein, ce mot. Déjeuner. Délier. Découdre. Défaire. Déjeuner. Arrêter de jeûner. Aujourd'hui, troisième dimanche de septembre, est le jour d'action de grâce, de pénitence et de prière pour toute la Confédération helvétique, selon la date officielle définie en 1832 par la Diète fédérale. Le jeûne fédéral est d'ailleurs aussi l'élément sur lequel s'ouvre la session d'automne du Parlement, encore aujourd'hui. Les Helvètes avaient déjà des réunions de prière, de jeûne, d'action de grâce dans les années 1300, au début de la Diète fédérale. Mais le premier jeûne fédéral officiel remonte au 8 septembre 1796 parce qu'on craignait la menace révolutionnaire. 1796. C'était à l'époque de la Révolution française. Mais on craignait que ça arrive chez nous. Et pourtant, je ne suis pas forte en histoire. Ce qui poussait les Suisses à se présenter devant Dieu et à s'humilier étaient des menaces de toutes sortes. Des menaces de guerre, des menaces d'épidémie, des menaces de disette, de pauvreté, des cataclysmes naturels. Mais c'était aussi des temps de reconnaissance. En fait, nos ancêtres avaient compris les principes spirituels, les lois spirituelles du jeûne et de la prière, et de l'unité. Et ils les mettaient en pratique. C'était après Jésus. C'était du temps du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, de notre temps à nous. D'ailleurs, si on recherche les jeûnes qu'il y a dans la Bible, on en trouve tout au long de l'Ancien Testament. Mais Jésus aussi a jeûné, ainsi que ses disciples, puis Paul, et encore l'Église primitive. Donc c'est encore valable aujourd'hui. Donc on peut être reconnaissant de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, ainsi des malédictions auxquelles le pays a échappé grâce à ses temps de repentance, de prière et de jeûne. Bref, j'arrive au bout de mon introduction et je vous explique que nos ancêtres, à cause de leur prière, à cause de leur jeûne, à cause de leur repentance, à cause du fait qu'ils se sont mis ensemble pour se présenter devant Dieu, ont fait que la Suisse est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors ce matin, on va parler du jeûne, c'est de circonstances. Et celui sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui se trouve dans Joël 2. Donc ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir. Vous l'ouvrez par la moitié, vous arrivez dans les psaumes, vous allez un peu plus loin, les grands prophètes, et encore un peu plus loin, puis les petits prophètes, et il y a Joël. C'est bon? Tout le monde y est? Alors si c'est une grosse Bible avec plein de commentaires, ce sera plus au milieu. Ok, Joël 2, les versets 15 à 17. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion. Rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres, les sacrificateurs pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Nous ne savons pas la date exacte du livre de Joël. On pense qu'il a été écrit à la fin du règne du roi Joas. Mais toujours est-il que ça a été écrit durant la période des rois. C'était une période vraiment sombre, où le peuple hébreu était dans le péché, dans la souillure, dans l'idolâtrie. Et c'est toute une période pendant tout le long où le Seigneur enjoignait son peuple à se repentir. C'était le cri du Seigneur. Donc Israël était dans le péché, il était éloigné de Dieu. Il avait perdu la crainte de son Créateur. Au premier chapitre, au verset 5, toujours dans Joël, l'Éternel dit « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous, parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. » Réveillez-vous, ivrogne, buveur de vin. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Réveillez-vous, menteur. Réveillez-vous, adultère. Réveillez-vous, paresseux. Réveillez-vous, fainéant. Réveillez-vous, vous qui êtes dans le compromis. Il aurait pu dire une liste. Il s'est arrêté à ivrogne. Mais c'était pour montrer l'état du cœur des gens. À cause des péchés d'Israël, à cause de son idolâtrie, un jugement s'était abattu juste avant que le Seigneur leur dise « Mais réveillez-vous !» Et ce jugement, il a pris la forme d'un essaim de sauterelles. Toujours le chapitre 1, verset 4. « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. » Ça a été une catastrophe naturelle. Moi, j'ai vu un essaim de sauterelles. On était à Madagascar, et là-bas, ça, c'est un fléau qui se déplace dans l'île. Et un jour, on partait avec toute l'équipe pour faire un concert. On est entré dans la ville d'Antsirabe, et on a été accueillis par un essaim de sauterelles, ou de criquets, je ne sais pas ce que c'était, des criquets, je crois. Comme ça grand, les machins. Comme ça grand. On était dans la voiture, on n'avait pas envie de sortir. Il y en avait partout. Et là, il y a eu ce fléau qui s'est abattu sur Israël, et ces bestioles ont tout bouffé. Toutes les cultures, la source de revenus, la nourriture, ça a été catastrophique. Et très souvent dans la parole, quand il est question de sauterelles, il est question de jugement, de châtiment. Donc ces sauterelles, elles ont été envoyées par Dieu en vue d'un jugement, enfin sous forme d'un jugement, à cause du péché d'Israël. Et c'est après cet événement que le Seigneur secoue, il essaye de réveiller son peuple. Il lui dit, allez, réveillez-vous, ne restez pas dans votre misère. Apprenez de vos erreurs, secouez-vous un peu, mettez-vous ensemble, rassemblez-vous, soyez un, revenez à moi. Regardez dans quel état vous êtes, sans moi. Croyez-vous que le diable va vous bénir? Croyez-vous qu'en étant adultère, vous allez vous épanouir? Croyez-vous qu'en faisant qu'à votre tête, vous allez prospérer, vous allez vivre dans la bénédiction, vous allez porter du fruit, vous allez hériter de la vie éternelle? Repentez-vous, changez vos comportements, ne restez pas sous le jugement, sortez de ce bourbier, demandez-moi de l'aide que je suis le seul à pouvoir vous donner. À travers la bouche de son prophète Joël, Dieu appelle le peuple à une sainte convocation, une assemblée solennelle. L'initiative, elle vient de Dieu lui-même. Elle ne vient pas du peuple, c'est lui qui les appelle. Et qui convoque-t-il? Il convoque tout le monde, mais tout le monde. Les jeunes, les vieux, les bébés, les hommes, les femmes, les célibataires, les veufs, les mariés, et même, je ne sais pas si vous avez entendu, même ceux qui sont dans leur lune de miel. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Le Seigneur n'est pas contre l'intimité d'un couple. Le Seigneur n'est pas contre les relations sexuelles. Au contraire, quand un couple se marie, il a donné une année de congé au niveau de l'armée pour le jeune marié afin qu'il puisse réjouir sa femme. Et ça, c'est le Seigneur, c'est la loi du Seigneur. Le Seigneur n'est pas contre. Au contraire, il sait que c'est nécessaire. Mais là, l'heure, elle est tellement grave que ce qu'il leur dit, c'est « Rhabillez-vous, sortez de votre chambre et venez vous humilier, jeûner, prier, lamentez-vous, pleurez. » Mais vous rendez compte à quel point c'était grave? Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres ou les sacrificateurs pleurent, les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? les responsables spirituels aussi sont appelés. Ils sont aussi appelés à se lamenter et ils sont appelés à implorer l'Éternel, à intercéder pour le peuple, pour leur propre vie, parce qu'elle était dans le même état que tout le peuple et pour le peuple. Ils étaient tous convoqués, ensemble, unis, un. La prière et le jeûne sont nécessaires quand on est dans l'intimité du Seigneur, quand on est seul dans sa chambre, dans le lieu secret. Mais dans ce texte, il s'agit d'un jeûne collectif. Et ça entre totalement dans ce que nous vivons tous ces temps. Le thème de l'unité revient depuis plusieurs semaines. L'appel à la prière se fait de plus en plus pressant. En même temps, il était toujours là, l'appel à la prière. Mais c'est comme si maintenant on commence à voir des flashs de prise de conscience dans l'Église. Il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos groupes de maison, mais nous, c'est quelque chose de nouveau. On a un élan nouveau pour la prière. Il y a des soirées, on n'arrive plus à s'arrêter. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'Église. C'est vraiment encourageant. C'est comme si le Seigneur est en train de presser sur notre cœur pour qu'on sorte de notre confort. Donc le Seigneur fait proclamer un jeûne collectif, mais pas n'importe comment. Qu'est-ce qu'il dit ? Proclamer un jeûne, rassembler, pleurer, implorer, intercéder. Regardez au verset 12. Donc le chapitre 2 de Joël, juste un petit peu avant que le premier passage que je vous ai lu. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Maintenant encore. Ce mot « encore », il est difficile à traduire. En fait, ce n'est pas tout à fait « encore », ou alors il faudrait dire « mais alors, maintenant encore », pour bien faire sortir la puissance de ce mot. En fait, on pourrait le traduire par « même ». Même maintenant, même aujourd'hui, revenez à moi. Même aujourd'hui, 18 septembre 2016, à 10h32, revenez à moi, même aujourd'hui. Avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Dans sa souillure, son entêtement, ses débauches, ses compromis, ses cachotteries, le peuple est complètement séparé, éloigné de Dieu. Il n'a plus d'espérance. Il est sur la pente descendante. Il va de misère en misère. Mais Dieu a une solution. Revenez. Ça me fait penser au verset de Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Je vous laisserai dire la suite du verset à la maison. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, 5. Le Seigneur y demande une repentance sincère. Toujours au verset 12. De tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Ce mot cœur, ce n'est pas l'organe cardiaque, ce n'est pas le muscle cardiaque qui se trouve ici et qui bat. Ce n'est pas ça. La signification du mot cœur, lebab, c'est l'homme intérieur. C'est la partie interne de notre être. C'est le siège de nos penchants, de notre résolution, de notre détermination. C'est le siège de nos appétits. C'est le siège de nos émotions et de nos passions. Le Seigneur appelle « Revenez à moi de tout votre cœur ». Ça veut dire « Quand vous revenez à moi, répandez votre cœur, tout ce qu'il y a, toutes vos passions, vos appétits, il y en a des bons, mais pas que. Vos aspirations, les bonnes, mais aussi les mauvaises. Vos désirs, tout ce qui est dans votre cœur, tout ce qui vous habite, l'état dans lequel vous êtes, venez devant moi et étalez tout ça devant moi. Si vous ne me donnez pas tout ça, je ne pourrai rien faire. au verset 13, « Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Déchirez votre cœur et non vos habits. Le Seigneur n'a que faire de la surface. Ça ne l'intéresse pas. De toute façon, il voit tout. Il n'a que faire de la surface parce qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout ce qu'on essaye de cacher aux autres, lui, il le voit. Tout ce qu'on essaye de se cacher à soi-même, il le voit. Il voit toutes choses. Et parfois, il y a des choses qui nous sont cachées à nous-mêmes. Il y a des choses, on ne se rend même plus compte. Parce qu'on a essayé de justifier des attitudes, des comportements, des choses qui nous font du bien, entre guillemets. On les a justifiées avec notre intellect. Et ensuite, on essaye de le justifier dans nos comportements. Et le Seigneur y voit. Et quand on persévère dans ces attitudes, le Seigneur le révèle. Ça vient au grand jour. Et là, ça devient compliqué pour la personne qui est dans cette situation. Alors le Seigneur nous dit, mais revenez de tout votre cœur. Je veux vraiment ce qu'il y a en vous-même. Repentez-vous pour de vrai. Verset 12, avec des pleurs et des lamentations. Lorsque nous prenons conscience de notre piteux état, Dieu nous demande de nous lamenter. C'est une façon de reconnaître notre pauvreté spirituelle, notre incapacité à faire le bien qu'on veut, notre incapacité à le faire par nous-mêmes. C'est une façon de confesser le peu de fruits que nous portons ou le temps perdu ou quand on s'est fourvoyé tellement longtemps. C'est le temps vraiment de s'étaler devant Dieu. Et dans le jeûne collectif, nous pouvons nous lamenter sur l'état de notre communauté ou de notre ville, ou de notre pays, ou des lieux de la région où le Seigneur nous a placés. On peut aussi se lamenter et jeûner pour un pays qui est à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de problème. Mais si on s'en tient au jeûne fédéral, il s'agit de la Suisse. Il a été institué en faveur de la Suisse. Alors, une question que je me pose à moi-même. Quelle est la dernière fois où nous nous sommes retrouvés en église pour nous lamenter, prier, intercéder, jeûner pour la Suisse? Plus proche de chez nous, qui a conscience que notre église a besoin de repentance, de prière, de se lamenter sur le peu de fruits qu'elle porte à l'extérieur, sur le manque de signes et de prodiges, sur le confort dans lequel elle se complaît parfois? Dans Joël, il est question de sauterelles qui ont ravagé tout le pays. Avez-vous des idées de ce que les sauterelles pourraient être ici à la Chaux-de-Fonds ou plutôt des dégâts qu'elles auraient pu causer? J'en ai listé quelques aspects pour lesquels il serait bon de se repentir, d'implorer le Seigneur, d'intercéder. Si on regarde la carte du canton, la Chaux-de-Fonds, la commune de la Chaux-de-Fonds, c'est celle où il y a le plus haut taux de personnes qui nécessitent l'aide sociale. Donc, ça veut dire précarité. Ça veut dire chômage. Ça veut dire haï. Ça veut dire honte. Ça veut dire alcool. Ça veut dire violence et tout ce qui s'ensuit. La misère humaine à la Chaux-de-Fonds, mes amis, elle est tellement importante. Et l'alcool aussi. Je suis bien placée dans mon travail pour le savoir. Vous savez, dans notre profession à l'hôpital, il existe des scores pour un peu tout et n'importe quoi. Et nous, à la Chaux-de-Fonds, il y a quelque chose qu'on reconnaît bien, c'est les symptômes de manque au niveau de l'alcool. Et on a des médecins qui viennent de Genève, les villes universitaires, qui arrivent avec leurs scores et qui veulent nous faire des scores SIVA, c'est-à-dire qu'une personne qui a dans ses antécédents ou dans ses habitudes une consommation d'alcool chronique, il faut qu'on lui fasse des scores pour essayer de capter les premiers signes de manque, parce que si on n'intervient pas tout de suite, ça peut être catastrophique. Mais nous, ça nous a fait rire. On les connaît tellement, ces symptômes à la Chaux-de-Fonds, qu'on n'a pas besoin de ces fichus scores qui nous prennent du temps. Le moindre signe, on sait le reconnaître. Voilà, on a tellement l'habitude. Mais ce n'est pas comme ça dans les autres villes. On on a un problème. Et l'alcool, il vient pas comme ça par hasard. C'est parce que ça cache quelque chose de plus profond. Ça cache de la misère ou de la souffrance ou de la violence ou des choses tellement difficiles. Les personnes qui vivent ces choses-là ne sont pas heureuses. Elles ont tellement besoin d'aide. Elles ont tellement besoin d'amour. Elles ont tellement besoin de guérison. Mais ça, c'est une photo de la Chaux-de-Fonds. C'est une ville culturelle. Oui, c'est positif. Mais c'est une ville aussi qui est tellement à gauche. Et pourtant, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas à droite, je ne suis pas à gauche, ce n'est pas la question. Mais elle est tellement à gauche qu'elle est ouverte à tout et à n'importe quoi, et plutôt athée. Et à tel point qu'on a transformé un temple, le temple allemand pour ne pas le nommer, qui devient le trône de Satan pendant 3, 4, 5 jours, chaque année. Chaque année. C'est catastrophique, et ça c'est juste un exemple. Je pourrais continuer à lister. Mais ça, c'est l'atmosphère dans laquelle nous évoluons. Et la question de se poser, c'est est-ce que nous sommes des lumières là-dedans? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a une loge franc-maçonnique importante ici. Dans nos montagnes, la pratique du secret est tellement courante que même les chrétiens ne savent plus pourquoi ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là au milieu? Et si je dépasse la Chaux-de-Fonds, les problèmes de couple, les problèmes d'addiction, de drogue, etc., etc., et tout ce qui nous éloigne de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se rassembler pour chercher la face de Dieu et puis lui demander, mais nous, le petit groupe qu'on est ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi ta priorité? On ne peut pas agir sur tous les fronts, mais toi, tu nous connais, tu connais notre identité d'église de réveil de la Chaux-de-Fonds, alors qu'est-ce que tu as mis comme fardeau, comme potentiel en nous pour qu'on puisse agir avec efficacité? Qu'est-ce que tu désires? Une chose est sûre, c'est qu'une poignée de personnes qui prient ne peut pas soutenir toute une église ni toute une ville. On a besoin d'être tous ensemble. Dans Joël 2, 13, 14, déchirez votre cœur et non vos habits et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et il regrette le mal qu'il envoie. Ou dans les autres traductions, il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait? Peut-être regrettera-t-il encore, se repentira-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Alors pourquoi le Seigneur demande-t-il le moyen du jeûne et des lamentations? N'est-ce pas lui qui a envoyé les sauterelles? N'est-ce pas lui qui a voulu châtier son peuple? Et il est noté qu'il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, qu'il se repent du mal qu'il envoie. Mais alors, est-ce qu'il se contredit? Il est pourtant amour, alors pourquoi il envoie des mots? Et pourquoi ensuite il se repent? C'est quoi le truc? Le texte de Joël, il concerne l'ancienne alliance. Donc Dieu devait envoyer des mots pour que le peuple prenne conscience de son péché, se repente et se remette sur la bonne voie. De même, à la fin, au temps de la fin, Dieu va envoyer des terribles jugements parce que le péché ne peut pas rester impuni. Mais aujourd'hui, nous vivons au temps de sa patience. Un jour, il mettra un terme à sa patience. Mais aujourd'hui, nous vivons au temps de sa patience. Donc actuellement, quand nous sommes dans le péché, ce n'est pas Dieu qui nous envoie des mots. Mais le fait de pécher, c'est des brèches dans notre vie qui donnent un droit légal à Satan d'y entrer et d'y instiller un peu ce qu'il veut. Il faut le savoir. Mais revenons à Joël, Dieu envoie des mots et il se repent. Il y a quand même une contradiction. Je suis allée un peu grailler dans le texte et j'ai pris ce verbe qui est utilisé pour se repent. J'ai reçu pour mon anniversaire un dictionnaire hébreu-français et pour cette prédication, je l'ai inauguré. Je suis trop contente. Là, je suis obligée de savoir l'alphabet parce que c'est un peu spécial. Mais j'ai trouvé ce mot, se repentir. et il a plusieurs significations. Et je pense que celle que les traducteurs ont choisie n'est pas la meilleure. Parce que ce mot hébreu, vous savez, l'hébreu, ce n'est pas une langue précise. C'est toujours le contexte qui va nous dire, qui va nous informer de à quel temps un verbe est utilisé et que signifie un mot exactement. Et ce mot, il veut dire se repentir, naham, avoir pitié, compassion, pardonner, se laisser fléchir. Ça change tout. Dieu envoie un mot, mais quand on se repent, il se laisse fléchir. Dieu se laisse fléchir lorsque nous nous humilions devant lui. Il ne veut pas de sacrifice, il ne veut pas de religiosité, il ne veut pas de « je vais à l'église tous les dimanches, je paye ma dîme, je prie 4 heures par jour, je prêche de temps en temps, je m'occupe des enfants, je m'occupe du nettoyage, je distribue la Sainte Cène, je m'occupe des jeunes, je vais faire ci, faire ça, sauver le monde. » Ce n'est pas ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui se repent, un cœur qui ne cache rien et qui est d'accord d'être nettoyé de fond en comble. Avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations, le fait de jeûner, c'est en fait une sainte humiliation. On humilie notre corps volontairement et on humilie notre âme. Alors, ce n'est pas de la flagellation. Parce que dans le texte, dans le vieux français, il y a marqué que le jeûne fédéral, c'est un temps de pénitence. Et on peut mettre un peu beaucoup de choses dans ce mot. Ce n'est pas de la flagellation. Les gens qui se flagellent, qui se font des entailles pour avoir mal, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu nous demande, c'est de jeûner. Au lieu de nous remplir de quelque chose ou d'une nourriture, on lui laisse de la place. Ce que je n'ai pas mangé physiquement aujourd'hui, le Seigneur va pouvoir le remplir de sa présence et des choses dont j'ai besoin de sa part. Quand je jeûne, quand mon corps commence à avoir faim, parce que c'est l'heure de manger, voilà ce qu'il me dit à mon intelligence. Il dit, va me chercher quelque chose à manger, j'ai faim. Mais lorsque l'âme se lève et qu'elle prend position, elle lui répond, tais-toi, tes besoins sont légitimes, mais Dieu est plus important. Crains Dieu et il te bénira. Crains Dieu. Le sacrifice de Jésus ne vaut-il pas une privation? Est-ce que tu n'es pas d'accord de payer le prix et de sauter un repas juste pour qu'il puisse te remplir? Et il y a une bataille. Il y a une bataille entre le corps et l'âme. Ouais, mais attends, non, mais là j'ai mal à la tête et puis il faut que j'assure. Donc, je vais quand même manger un petit truc. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, vous savez comment ça se passe. Vous savez le combat qui se passe. Et ce combat, ça montre notre détermination, ça montre notre volonté. Est-ce que ma volonté, elle est vraiment de me laisser remplir du Seigneur? Est-ce que je suis en train de dire, Seigneur, c'est dur, mais t'es tellement plus important que, ok, j'obéis, vas-y, remplis-moi. Alors, quand on est dans cette attitude-là, le Seigneur intervient, il nous relève, mais aussi il nous équipe. Si vous avez l'impression que vous ne portez pas du fruit, si vous avez reçu un appel sur votre vie puis que vous ne voyez pas que ça se développe, peut-être que c'est par là que vous devez passer justement, pour que le Seigneur puisse vous remplir, pour qu'il puisse vous équiper, vous édifier. Et le Seigneur est tellement bon. Imaginez un enfant ou un ado qui a fait une bêtise. Il se fait gronder par ses parents. Il se fait gronder par son père. Il se fait punir, bien costaud, et il va digérer un peu plus loin. Moi, j'allais boquer. C'est ce que mes parents m'ont toujours dit, j'allais boquer dans ma chambre. Cet enfant, il peut aller boquer, il peut se révolter, il peut en avoir de l'amertume et donc de l'orgueil, il peut injurier ses parents, il peut juste aller pleurer dans son coin. Il peut avoir plein d'attitudes après avoir été puni. Mais imaginez cet enfant qui revient vers son père et qui lui dit, il est en pleurs, il est contrit, et il lui demande pardon. Il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal et il lui demande pardon. Comment croyez-vous que ce père va l'accueillir? Bien. Notre Père nous aime encore plus que comme nous pouvons aimer nos propres enfants. Alors à combien plus forte raison il va pardonner, il va guérir, il va restaurer, il va remplir, il va oindre. Toujours Joël 2, à partir du verset 18. Après cette réunion solennelle, après que le peuple se repent, l'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile, vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer Morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasirez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera jamais plus dans la honte. Et si je lisais la suite, c'est le passage qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'enverrai mon esprit, vos jeunes filles prophétiseront, etc., vos jeunes gens auront des visions, etc. Donc ça va encore plus loin. Non seulement il y a toute la restauration du corps, de l'âme, de l'esprit, de la société, etc., mais en plus de ça, il y a l'onction du Saint-Esprit qui vient. Et c'est là que les signes et les prodiges ont lieu. Tout réveil spirituel, qu'il soit personnel ou collectif, commence par la repentance. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Elle est vivante. Elle agit encore aujourd'hui, 18 septembre 2016, 10h53. Nos ancêtres avaient compris les principes spirituels de la repentance, du jeûne, de la supplication, de l'intercession. Ils avaient saisi l'importance de se mettre ensemble et de se présenter devant Dieu. Ils avaient compris que le jugement n'est pas irrévocable. Ils avaient compris qu'une assignation à comparaître en jugement n'aboutissait pas à une condamnation irrévocable, mais que c'était l'occasion de se repentir et d'être restauré. Et ils mettaient tous ces principes en action. Ça nous a épargné des guerres. Ça nous a épargné des asservissements. Ça a éloigné l'ennemi. Ça a éloigné des maladies. La Suisse n'aurait pas eu son confort et sa sécurité actuelle sans l'obéissance de nos ancêtres. Peut-être même que la Suisse ne serait pas Suisse. Jésus revient bientôt. Mais ce n'est pas une raison pour s'endormir. Les temps sont courts, il y a tellement de fruits à porter jusqu'à ce qu'il revienne. Comment est-ce que vous aimeriez que Jésus vous retrouve quand il viendra ? Comment est-ce que vous aimeriez qu'il vous trouve quand il reviendra? Endormi ou debout? Et si vous voulez qu'il vous trouve debout, œuvrant pour lui, efficace dans votre appel, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, obtenant des résultats dans la prière, dans la joie du service, alors saisissez-vous de ces principes spirituels. Pensez-vous qu'il est possible que le Seigneur vous relève encore, qu'il vous transporte, vous équipe, vous établisse à son service? Fermez juste les yeux. Réfléchissez à votre situation et je vous repose la même question. Pensez-vous qu'il est possible que le Seigneur vous relève encore, qu'il vous transforme, vous équipe et vous établisse dans son service. Je pense que ce matin, le Saint-Esprit a convaincu des cœurs. Je pense qu'il frappe aussi à d'autres cœurs. Je pense qu'il y a encore de la résistance. Mais demandez-lui son aide. Demandez-lui de vous convaincre. Qu'est-ce qui doit encore être restauré? Qu'est-ce qui doit être abandonné? Qu'est-ce qui doit être déchiré dans votre cœur? Ayez confiance que le Seigneur va restaurer, va guérir, va pourvoir. Faites votre part dans le lieu secret, seul à seul avec le Seigneur. Humiliez-vous, suppliez-le, cherchez-le de tout votre cœur jusqu'à la percée. Et faites aussi votre part dans la vie communautaire. Chaque pierre est nécessaire à l'édifice. Soyons un. Passons du temps ensemble devant le trône du Seigneur. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Il est tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Merci pour tes lois spirituelles. Elles paraissent difficiles, mais en même temps, c'est tellement bon. C'est difficile d'être brisé, mais c'est tellement bon de te voir nous restaurer, de te voir nous changer, nous transformer. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous convainc. Merci pour ton Saint-Esprit qui se meut dans cette salle. Merci parce que tu frappes à la porte. Tu ne brusques pas. Nous sommes tous responsables d'ouvrir ou non. Tu nous laisses libres. Tu fais les choses avec douceur. Mais c'est toi qui convainc. Merci parce que ce que tu veux pour nous, c'est du bien. Et c'est pour te glorifier. Jésus, je t'appelle à te glorifier dans chacune de nos vies et dans notre communauté. Garde-nous dans la crainte de ton nom, de ta personne. Garde-nous soumis à ta volonté. Fortifie notre volonté, notre détermination à t'obéir. Et Seigneur, Père éternel, je te remercie pour nos ancêtres et l'obéissance. Merci pour tout ce qu'ils se sont sacrifiés. Et c'est nous qui en bénéficions. Apprends-nous à faire de même pour ceux qui viennent après nous et ceux qui vivent à côté de nous. Je bénis ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Je confesse ton nom. Amen.